partenariat officiel entre RCJ et Cannes Israël en français. RCJ, média du FSJU, et Cannes en français, la radio publique israélienne, partagent leurs programmes. Pour être encore plus près de l'actu en France et en Israël et en France, restez branchés. Téléchargez l'application mobile gratuite de RCJ pour écouter Cannes Israël en français, avec le concours du FSJU France-Israël.
Le 23 mars dernier, un navire, l'Ever Given, a traversé le canal de Suez. Il est alors le cinquième d'un convoi de 20 navires, mais il s'y coince en diagonale, bloquant le canal de Suez. L'Evergreen déclare que le navire s'échoue accidentellement à cause de rafales de vent. Ça a été l'occasion dans toute la presse internationale et surtout dans la presse française de reparler du canal de Suez. Et j'en ai profité aujourd'hui pour poser un certain nombre de questions à Danny Cohen. Danny Cohen qui est guide touristique et qui est un spécialiste du canal de Suez. Il est avec nous pour en parler aujourd'hui. Bonjour Danny.
Bonjour Emmanuel et bienvenue au canal de Suez.
Alors Danny, tout d'abord j'ai envie de vous poser la question historique sur le canal de Suez. On va rappeler un petit peu quelques dates quand tout a commencé dans cette région du monde très précise en Égypte, hein, particulièrement à Port Saïd.
D'abord Port Saïd, c'est une ville comme Ismaïlia qui a été créée par les Français quand ils ont débuté la construction du canal de Suez par Ferdinand de Lesseps. Mais bien avant ça, beaucoup bien avant ça, c'est d'abord les Romains au 1er et 2e siècle qui vont essayer de faire une tentative de créer un canal de Suez pour pouvoir amener des marchandises de l'Orient jusqu'à l'Occident. En fait, cette tentative va échouer, ça ne va pas trop marcher à l'époque romaine, mais ils ont déjà pensé, même à l'époque des pharaons, ils en avaient pensé, ils avaient même fait un canal entre le Nil et Suez, la ville de Suez, pour pouvoir amener plus facilement des marchandises. Et donc le canal de Suez va être en fait cet endroit, ce qu'on appelle un isthme. Il sera abandonné et recouvert de sable, puisqu'on a les deux déserts des deux côtés. Et ce n'est qu'à la tension entre les Anglais et les Français au 19e siècle qu'on va commencer à s'intéresser à recreuser le canal de Suez. Donc le canal de Suez, il est un peu recouvert de sable depuis des millénaires. Et les Français, avec Napoléon, en 1799, quand ils arrivent en Égypte pour essayer de freiner les Anglais qui, eux, allaient en Inde, vont commencer à s'intéresser. Et c'est une première personne qui va s'intéresser au canal de Suez. C'est un général de Napoléon en 1799, en juillet 1799, qui va faire des premières mesures. Et il va arriver à la conclusion que c'est pas possible. Alors comment il arrive à cette conclusion? Parce que tout simplement, il fait des mesures et il découvre que la mer Rouge est 10 mètres plus haut que la mer Méditerranée et que ce canal ne sera pas possible. Et c'est qu'une cinquantaine d'années plus tard qu'un autre Français va débarquer au Caire, puisqu'il est consul général de France au Caire. On est sous l'époque de Mohamed Ali, qui est un vilayet, est un gouverneur turc d'origine albanaise, qui lui décide de ne plus payer les impôts à Constantinople, et donc il fait appel aux puissances étrangères à l'époque, les deux grosses puissances étrangères, comme on le sait tous, ceux qui ont des grandes marines, ce sont les Français et les Anglais. Donc ce fameux Ferdinand de Lesseps arrive au Caire, et puis c'est très intéressant, il est destiné à être consul général de France au Caire, mais il ne peut pas débarquer de son bateau, puisqu'il y a un doute de malaria, donc il est mis en quarantaine, et c'est un aide du consul français au Caire qui va lui amener des livres pour faire passer sa quarantaine. Et quand il va lire les comptes rendus de ce fameux Le Père, fameux Le Père qui était un architecte de Napoléon, il va voir que la différence entre la mer Rouge et la mer Méditerranée 10 mètres n'est pas possible de les relier. Donc il va quand même s'efforcer de faire une autre mesure. Il ne lâche pas l'idée. Il débarque au Caire, il est très proche du fils de Mohamed Ali qui s'appelle Saïd Pacha, puisqu'il a connu quand il était plus jeune, et celui-ci va lui donner l'autorisation de faire des premières mesures. Et là, Ferdinand de Lesseps s'aperçoit que c'est possible, c'est réalisable. Alors là, il faut commencer à faire des mesures, il va faire des mesures, il va s'apercevoir qu'il faut beaucoup d'argent. Il va en France, il va créer une société qui s'appelle la Société du Canal de Suez, et là, ils vont faire ce qu'on appelle des bons. Les Français, ils vont vendre des bons, et ils vont faire des levées de fonds géantes à la bourse, et ça va très bien marcher en Europe pour 50% du prix du Canal de Suez. Et les autres 50%, ça sera Saïd Pacha lui-même qui devra faire un prêt. Il va faire des prêts à des banques européennes, et le projet va commencer. Le problème qu'on va rencontrer dans un premier temps, Ferdinand de Lesseps, c'est comment amener de l'eau pour les ouvriers. Ça va être des dizaines de milliers d'ouvriers qui vont venir travailler, qui vont venir creuser à la pelle, parce qu'on n'a pas encore des grues à l'époque. Et c'est important. C'est très important, Emmanuel.
Alors, en fait, si je comprends bien, l'idée, c'était de permettre aux navires d'aller d'Europe en Asie sans avoir à contourner toute l'Afrique, hein, ce qui se faisait en fait jusqu'à la création du canal de Suez par le cap de Bonne-Espérance. Et donc, ça permettait un raccourci incroyable.
De 11 000 lieues presque, était un immense raccourci de presque un mois de navigation. Alors, il fait donc appel aux banques françaises et Saïd Pacha, lui, demande des prêts aux Anglais et aux Français. Et avec le temps, Saïd Pacha, qui rencontre une famine en Égypte, il demande l'aide aux Anglais qui vont s'empresser de venir rembourser ses gains. Et ils vont tout de suite prendre parti des efforts économiques pour le canal de Suez en achetant la moitié du canal de Suez. Donc là, il y a les Français et les Anglais qui sont associés. Et le but, c'était de faire 40% pour les Anglais et 40% pour les Français. Et les 20%, c'était pour l'État égyptien. Alors, je reviens d'abord à mon canal pour alimenter les ouvriers. Alors, ces ouvriers, c'était une espèce de service militaire pour les ouvriers égyptiens. Presque 20% de la population égyptienne va bouger de la région du Caire pour s'orienter vers le canal de Suez, avec leur famille, avec leur maison, avec leurs ânes et leurs chameaux. Ils vont quitter la région du Caire et ils vont s'installer au bord du canal de Suez qui est en train de se faire creuser. Et pour résoudre le problème de l'eau, ils vont faire un canal qui va relier le Nil et jusqu'au canal de Suez qui est en construction. Dans un premier temps, on va faire un petit couloir. Et puis, on va s'apercevoir que l'appel, ça va prendre du temps. Donc, Ferdinand de Lesseps fait appel à des mécaniciens en Europe qui vont lui inventer une machine pour crever. Parce qu'à chaque fois qu'on creusait pour enlever, le sable retombait. Et donc, ils vont réussir à résoudre ce problème et ils vont commencer de creuser le canal de Suez. Il va commencer en 1859 et il sera terminé en 1869 avec ces milliers d'ouvriers égyptiens. C'est des dizaines de milliers qui étaient changés tous les 6 mois. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ces mêmes ouvriers qui, à la fin du canal de Suez, sont tous concentrés au niveau du canal de Suez, à la fin du canal de Suez, ils n'auront plus de travail. Et c'est ce qui explique une autre vague d'immigration d'Égyptiens qui viendront en Palestine à cette époque-là. Parce que là-bas, en Palestine, il y a du travail qui s'offre à eux avec les premiers pionniers sionistes qui arrivent. Alors, c'est très intéressant de comprendre cela. Ces 20% d'ouvriers qui sont sur le canal de Suez, la distance entre Beersheba et le canal de Suez, c'est à peu près la même entre le canal de Suez et le centre de l'Égypte. Donc ils se disent, tiens, on va monter dans ce nouveau pays qui s'appelle la Palestine, puisque les pionniers arrivent et ils arrivent avec un savoir européen, ils vont avoir besoin de main d'œuvre. D'ailleurs, si vous demandez à 50% des Palestiniens qui habitent en Israël, ils ont tous en général un nom d'origine égyptienne. Donc, on va finir la construction du canal de Suez en 1869. Ce n'est plus Saïd Pacha qui est au pouvoir, c'est son fils Ismaël Pacha. D'ailleurs, on construira lui aussi une ville à son nom qui s'appellera Ismaélia. Au nord, on aura Port Saïd au nom de Saïd Pacha, les deux enfants de Mohamed Ali, qui était ce qu'on appelle un homme qui va faire beaucoup de réformes et qui, pour la première fois, va donner aux chrétiens et aux juifs des droits.
Alors, on arrive à l'époque de la Première Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, le canal de Suez est placé sous protection militaire de la Grande-Bretagne. Et en 1956, Nasser, hein, le fameux président égyptien, va mettre un terme à cette situation en nationalisant le canal de Suez, Dani.
Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui se passe après les Ismaël et Saïd, il vient Farouk. Après Farouk, il y a la révolution, le putsch militaire de Nasser, qui lui voit que la situation en Égypte n'est pas terrible au niveau économique, au niveau agriculture, parce qu'il n'y a pas souvent de l'eau dans le Nil. Il décide à tout prix de construire le barrage d'Assouan. Et là, il va faire appel aux Européens, ces mêmes Européens qui sont propriétaires avec la France, propriétaires entre la France et les Anglais, qui sont propriétaires du canal de Suez. Et ça les met un peu jaloux, les Égyptiens, parce qu'ils ont une crise économique chez eux, il y a la famine. Alors ils demandent gentiment aux Européens qui sont propriétaires du canal, est-ce que vous pouvez nous prêter de l'argent? Parce que nous, on veut faire le barrage d'Assouan qui va nous permettre de créer de l'électricité et de gérer l'eau. Et là, les Européens refusent. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que fait Nasser? Énervé, il fait ce qu'on appelle la nationalisation du canal de Suez. Et les Français et les Anglais sont très énervés. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir Israël en cachette. Ils vont réserver, ils vont demander à Moshe Dayan et à Ben Gourion de venir à un rendez-vous secret sous l'époque de René Coty et de Guy Mollet, de venir à un rendez-vous secret à Sèvres, en France, pour leur annoncer qu'ils veulent attaquer l'Égypte parce que cette dernière a fermé le canal de Suez. Et les Israéliens sont heureux de cette occasion, puisqu'on est en 56. Le pays est tout jeune, on fait la queue pour acheter du pain, on n'a pas d'armes. C'est les 10 premières années de l'État d'Israël où vraiment on est un pays non aligné. Et donc personne ne nous aide au niveau financier, donc personne ne nous fournit des armes. Et là, les Français nous proposent d'attaquer le canal de Suez, d'attaquer l'Égypte. Et eux, les Français et les Anglais, sous prétexte qu'il fallait qu'ils fassent régner un cessez-le-feu sur place, vont être parachutés au nord du canal de Suez. Alors on est en 56, les Israéliens attaquent le canal de Suez. Mais avant cela, Ben Gourion et Moshe Dayan, et bien sûr Shimon Peres, demandent expressément aux Français qui sont d'accord de faire cette opération qui nous coûtera presque 250 morts. Mais avant tout, Emmanuel, ils vont demander aux Français, à la condition pour laquelle ils seraient d'accord d'attaquer le canal de Suez en 56, c'était que les Français leur donnent le savoir sur la bombe atomique.
Alors là, ça devient de plus en plus important. Il s'agit plus d'un petit canal de passage pour les navires, Dany, si je comprends bien. Bon, il faut aussi peut-être rajouter qu'à cette époque, Nasser a bloqué le golfe d'Aqaba, qu'il a fermé le canal de Suez aux navires israéliens. Et donc, la tension monte et puis les États-Unis se mêlent, la Chine se mêle. Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là?
Bloque Suez à tous les bateaux israéliens. Donc c'est une autre raison pour les Israéliens de venir attaquer le canal de Suez. Mais cette fois, on va être armé par les Français. Et puis d'abord, il y avait beaucoup de terroristes qui passaient du Sinaï, qui montaient faire des attentats vers Beersheba. C'est ce qu'on appelle l'époque des Fedayoun. Donc c'est une occasion en or pour Israël. Et là, les Français vont nous armer jusqu'aux dents. Ils vont nous fournir des avions, des vautours, des mirages, des mystères. Ils vont former nos pilotes. Et là, on va attaquer le canal de Suez. Et le scénario était le suivant. Israël attaque le canal de Suez, et là, sous prétexte de venir faire la paix dans la région, les Français et les Anglais parachutent leurs soldats et ils reprennent tout le canal de Suez, de Port Saïd jusqu'à Suez. Et l'opération va durer que 2 petites semaines. Et en parallèle, il y a deux grosses nations qu'on va appeler les États-Unis et la France qui vont commencer à avoir une politique extérieure. Ils vont se lever. Khrouchtchev, à l'ONU, va même menacer les Français et les Israéliens et les Anglais de la bombe atomique qui ne quittait pas immédiatement le canal de Suez. Cette opération s'appellera l'opération Mousquetaire. En Israël, elle s'appellera Mivtza Sinai. Pourquoi Mousquetaire? Parce qu'il y avait les Français, les Anglais et les Israéliens. Au bout de 2 semaines, les Français et les Anglais, menacés par les Russes de bombes atomiques, quittent. Les Français et les Anglais retournent en Europe. Le canal de Suez est entre les mains de l'ONU, mais Israël sortira grand gagnant de cette opération puisqu'elle sera armée jusqu'aux dents en 1956.
Est-ce qu'ils ont à ce moment-là tenté d'éliminer Nasser?
Alors, Nasser sera bien entendu au pouvoir. Et j'imagine évidemment que le SDES, les services de renseignement français et anglais, très énervés de l'action de Nasser, vont faire pression sur les frères musulmans pour que ces derniers l'éliminent. Mais ce qui est intéressant de savoir aussi, pourquoi les Français étaient énervés contre Nasser, c'est pas simplement qu'il leur a pris le canal de Suez, c'est parce qu'aussi Nasser entraînait et armait le FLN en Algérie. Donc les Français avaient plusieurs raisons de s'opposer à Nasser. Donc les Russes et les Américains se mêlent, on amène des forces internationales qui vont prendre la main. Et là, les Français et les Anglais vont un peu renoncer au canal de Suez, puisque l'accord en 1869, c'était d'avoir un accord avec les Français et les Anglais de 100 ans. Et là, il ne restait plus que 10 ans, donc le canal de Suez. Je rappelle que le canal de Suez est l'entrée principale des Égyptiens de devises internationales, puisque c'est un pays qui produit du coton, simplement. Et donc là, le canal de Suez repasse entre les mains égyptienne. Alors donc ça c'est l'opération qui a lieu en 56 et en 67 à la guerre des six jours, les Égyptiens vont s'empresser de faire couler des bateaux dans le canal de Suez et il sera fermé presque 10 ans de 67 à 75 parce qu'ils ne voulaient pas que les Israéliens l'utilisent. Alors aujourd'hui le canal de Suez fonctionne comme ça, 10% des transports maritimes passent par le canal de Suez, bien entendu. Et c'est une entrée, un bateau comme le Ever Given qui a été bloqué doit payer une taxe d'à peu près 800 000 euros par chaque passage. Le canal de Suez a une longueur de 190 km et ça marche en alternative. C'est-à-dire que ceux qui sont à Port Saïd ont 11 heures pour le traverser et une fois qu'ils ont traversé, on arrête et après on repart du sud au nord ou du nord au sud. Mais il ne peut pas y avoir en même temps des bateaux qui se croisent, ça n'existe pas au canal de Suez.
Alors, on avance un petit peu dans le temps, Dani. En 2015, après un an de travaux, le canal de Suez a été agrandi et modernisé par les autorités égyptiennes, toujours pour maintenir et renforcer ce passage, cet échange, ce passage clé des échanges commerciaux mondiaux, et puis surtout pour développer tous les abords de cette région. C'est un canal modernisé qui a connu une croissance très importante puisque je crois qu'ils ont permis un double passage de navires.
Alors oui, effectivement, mais ça que sur 35 km et ça permet moins d'attente. Pour traverser tout le canal de Suez, il faut à peu près 11 heures. Alors, ces transformations devraient permettre le passage de 97 navires par jour à l'horizon de 2023 au lieu de 49 avant les travaux. Alors, un autre petit détail, si vous me permettez, Emmanuel, c'est que le long du canal de Suez, il y a deux petits lacs, le lac Timsar et le lac Salé. Eh ben, les archéologues qui sont des maximalistes, ils pensent que le lac Salé est en fait Yam Souf, la mer des joncs, celle que le peuple hébreu aurait traversée à la sortie d'Égypte et non pas la mer Rouge. Voilà, ça c'est mon côté un peu historique d'être passionné. En fait, ce qui m'a amené à être passionné par le canal de Suez, c'est l'histoire du lac amer. Ce lac amer est un lac où il y a des joncs. Et la mer Rouge qu'on a traversée avec Moïse s'appelle en hébreu Yam Souf et non pas la mer Rouge.
Alors aujourd'hui, on parle de projet toujours de développer, d'agrandir. On en parle du côté israélien aussi, Dani.
Oui, alors je ne sais pas où ça en est aujourd'hui exactement, mais imaginez-vous l'agrandissement du transport maritime si on pouvait élargir le canal de Suez. Alors, les spécialistes israéliens ont pensé de faire un canal de Suez entre Ashdod et Eilat. Imaginez-vous ça. Ça va rétrécir encore, ça va raccourcir encore plus le chemin qui va relier l'Orient à l'Occident. Imaginez-vous les bateaux qui viennent par le golfe d'Aqaba et qui vont traverser un canal qui va être éventuellement, peut-être un jour construit entre Eilat et Ashdod. Je vous rappelle que entre Ashdod et Eilat, c'est 300 km. Le canal de Suez aujourd'hui ne fait que 200 km, donc ce n'est que 100 km supplémentaires. Et entre Ashdod et Eilat, c'est un désert. Ça serait un projet titanique, mais imaginez-vous la révolution que ça pourrait donner pour le transport maritime de faire un canal d'Ashdod ou d'Eilat qui relierait Eilat à Ashdod. Alors moi, j'ai pensé à une option où on pourrait faire d'un côté sud-nord Eilat Ashdod et nord-sud avec le canal de Suez. Mais ça, il faut téléphoner au ministre des Transports israélien, Emmanuel.
Dany, merci beaucoup de nous avoir rappelé toute l'histoire du canal de Suez, qui est quand même un endroit stratégique, fondamental au niveau financier, au niveau commercial, pour, comme vous le disiez, relier l'Orient à l'Occident. Et peut-être que dans l'esprit de nos auditeurs, eh bien, Port Saïd ne sera pas seulement, grâce à vous aujourd'hui, un restaurant à Tel Aviv, mais un endroit stratégique pour toute la région. Merci beaucoup, Dany Cohen, d'avoir été avec nous.
Eh bien, c'est un plaisir. À bientôt.
Vous venez d'écouter une émission de Can Israël dans le cadre du partenariat entre la radio Can Israël, la radio publique d'État israélienne et RCJ. Vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant notre application mobile.